Bonjour, je m'appelle Pierre Craig. Bienvenue au balado Les petits caractères. Je suis journaliste. J'ai animé durant 13 ans l'émission La facture à Radio-Canada. Alors, la consommation, j'en connais un petit bout là-dessus. Option consommateur, c'est un organisme à but non lucratif qui vous informe et puis aussi qui défend vos droits depuis 37 ans. Vous imaginez bien que les avocats d'Option consommateur, eux aussi, en connaissent un bon bout. Ensemble, on a eu l'idée de vous présenter deux fois par mois ce balado, un balado qui touche votre vie de tous les jours. Que ce soit, par exemple, un voyage annulé, cette saison, par la compagnie mais pas encore remboursé, un achat en ligne toujours pas livré, comment pouvez-vous défendre vos droits? Avec les avocats d'Option consommateur, je vais décortiquer tout ça pour que les petits caractères, vous savez, là, ceux qu'on dit jamais, moi non plus d'ailleurs, vous causent le moins de soucis possible. Dans notre dernier balado, on vous a parlé des achats en ligne. On vous expliquait comment les lois du Québec pouvaient vous protéger, même si vous achetez en ligne des produits qui viennent de l'autre bout du monde. Mais aujourd'hui, on va s'inquiéter des dettes qu'on peut avoir accumulées. Je ne sais pas pour vous, mais ça m'est déjà arrivé de ne plus arriver. J'étais chanceux, ça ne menaçait pas mon budget d'épicerie ou de logement, mais les dettes que j'avais me stressaient énormément. Et vous savez que pour beaucoup de gens, c'est malheureusement bien pire. Alors, dans quel état économique est-ce qu'on est à ce moment-là de la pandémie? Que faire pour éviter ce stress dont je viens de vous parler? Bruno Marchand est syndic de faillite. Mais attention, ça c'est l'ancien nom. Ça s'appelle maintenant syndic autorisé en insolvabilité et redressement.
Monsieur Marchand, c'est quoi votre situation là? Vous êtes un syndic, là. C'est quoi la situation en ce moment? On est en pleine pandémie. Est-ce que ça va mal pour les consommateurs, les citoyens? Est-ce que ça, comment ça va?
Présentement, si on se fie aux dernières statistiques, il y a une baisse dans les dossiers d'insolvabilité. Malgré la pandémie, parce qu'il y a un soutien avec les subventions, avec les programmes d'aide, autant pour les consommateurs que pour les entrepreneurs, si on veut.
Donc, les gens, d'une certaine manière, ils sont maintenus à flot artificiellement pour le moment. Là.
Exactement.
Est-ce que ça veut dire qu'on peut s'attendre à une espèce de tempête après la fin des programmes? Parce que ça va arrêter. Là, on est rendu à presque 350 ou 400 milliards de déficit. Là.
Ben, déjà, il y a des programmes qui ont été transformés. Déjà, il commence à y avoir des réclamations, entre autres, pour ceux qui auraient au conditionnel reçu de la PCU sans droit ou des trop important montant par rapport à ce qu'ils auraient eu droit. Oui, effectivement, il va y avoir un ressac à un moment donné, une augmentation quand les programmes d'aide vont arrêter. Je pense bien que ça va arriver, effectivement.
Quand dois-je commencer à penser peut-être à vous appeler?
Moi, je vous donnerais peut-être deux signes avant-coureurs de difficultés financières sérieuses. À peu près tout le monde, on a des cartes de crédit. Une bonne façon de gérer ses finances, c'est qu'à chaque fois que le compte de carte de crédit rentre à tous les mois, on doit le solder. On doit être en mesure de payer le compte au complet et de ne pas seulement payer les minimums mensuels requis. C'est à peu près les dettes les plus pesantes quand on regarde les taux d'intérêt que ces dettes-là génèrent. Deuxièmement, une autre façon peut-être de le calculer, c'est si on se rend compte que l'ensemble de nos dettes, à part l'hypothèque sur la maison et, par exemple, le prêt auto, ce qu'on a à peu près tous quand on a un véhicule, c'est assez rare qu'on ait un véhicule qui soit complètement payé, sauf si c'est un véhicule d'occasion. Mais à part ces deux dettes-là, si l'ensemble de nos autres dettes atteignent plus de 30 % plus du tiers de notre revenu brut annuel, à ce moment-là, c'est un signe avant-coureur de danger, là, si on veut.
C'est à ce moment-là que je devrais prendre mon téléphone puis vous appeler?
Exactement. À ce moment-là, le débiteur qui se sent en difficulté financière peut toujours appeler un syndic. La plupart des syndics, sinon tous, ont dans leurs annonces que la première entrevue est sans frais et qu'on est en mesure de déterminer avec le débiteur quelle est la meilleure solution pour lui.
Justement, c'est un bon point que vous abordez. Là. OK, mettons que la première entrevue est sans frais, mais je n'ai pas les moyens de vous payer. Moi, je fais quoi, là? Comment vous vous payez, vous?
chacun des syndics détermine un minimum de montant que le débiteur devrait verser à son dossier de faillite pour garantir ses honoraires, justement. Okay. La loi de faillite dit que la première personne qui est payée dans une faillite, c'est le syndic. Le syndic se paie à même l'actif. S'il n'y en a pas, bien, le syndic va faire en sorte d'en générer un, c'est-à-dire de demander au débiteur de faire un certain paiement mensuel.
Quand on devient insolvable, les programmes sont finis, quelqu'un devient, prenons mon exemple, je deviens insolvable, j'imagine que j'ai deux solutions à moins que vous m'en trouviez une troisième, c'est soit faire ce qu'on appelle une proposition de consommateur ou alors de faire faillite. Pouvez-vous, en quelques mots, là, nous expliquer ce que c'est là, chacune des choses, là, puis faire la différence entre les deux?
OK. Premièrement, disons que la principale différence entre une proposition de consommateur et une faillite, c'est qu'une proposition, ça n'est pas une faillite. Donc, le rôle du syndic n'est pas le même dans les deux cas. Dans le cas d'une faillite, le syndic a le mandat de réaliser les biens du failli, c'est-à-dire d'examiner sa situation, quels sont ses actifs, est-ce qu'ils sont saisissables et de quelle façon peut-il les réaliser, donc les transformer en argent pour être distribué à travers ses créanciers. Dans le cas d'une proposition de consommateur, le syndic agit à titre d'administrateur de proposition, c'est-à-dire qu'il est en quelque sorte, pour employer un bon terme espagnol connu ici, un buffer entre les créanciers et le débiteur. Et donc, le débiteur fait une proposition de règlement à ses créanciers. Et si les créanciers l'acceptent au terme d'un vote, la proposition suit son chemin. Donc, par exemple, le consommateur a proposé de verser, mettons, 300 $ par mois pendant 60 mois. Les créanciers votent à majorité simple en dollars et la proposition est acceptée.
Okay, on va revenir là-dessus, là, sur ce vote-là. Mais si je comprends bien, là, quand il y a une faillite, on va essayer d'aller chercher tout ce que la personne qui ne peut pas rembourser ses dettes a pour rembourser un minimum de dettes aux créanciers, alors que dans le cas d'une proposition de consommateur, comme vous le dites, il y a des paiements mensuels qui sont faits. C'est peut-être pas 100 % des dettes qui vont être remboursées, mais il y a une partie des dettes qui vont être remboursées.
Disons qu'une proposition de consommateur, ça assure aux créanciers d'avoir un minimum d'argent en retour. Ce qui est rarement le cas des faillites de consommateurs qui, la plupart du temps, n'ont pas d'actifs dont le syndic peut prendre possession. Alors, à ce moment-là, dans les cas de faillite, les dividendes, c'est souvent 0 %.
Si on regarde les deux affaires, la proposition de consommateur, faillite, là, c'est quoi la meilleure solution pour moi?
Mais ça dépend de votre situation. Il n'y a pas d'automatisme. C'est évident que si vous êtes en mesure de faire une proposition, c'est-à-dire si vous avez un emploi, vous avez un revenu qui est stable, vous êtes capable de faire face à vos dépenses quotidiennes et il vous reste un certain montant d'argent supplémentaire pour pouvoir faire la proposition, à ce moment-là, vous êtes mieux de faire une proposition. Mais il y a des cas où ce n'est pas possible de faire une proposition, où les gens ont à peine suffisamment d'argent pour faire face à leur commodité.
Donc, à ce moment-là, ils n'ont pas le choix. Mais est-ce que c'est moi, comme consommateur, qui choisis faillite ou proposition de consommateur? Mettons, je fais une proposition. C'est ma proposition, avec votre aide, là, je présume. Je fais une proposition. Mais là, vous avez parlé d'un vote. Pouvez-vous, en quelques mots, là, me dire comment ça marche, cette affaire de vote-là?
Oui, certainement. Le rôle de l'administrateur de proposition, donc du syndic, c'est de déterminer avec le débiteur quelle est la meilleure offre qu'il peut faire compte tenu de ses revenus et de ses charges. Alors, l'administrateur va envoyer au créancier la proposition faite par le débiteur, va préparer les papiers, va faire les envois. Les créanciers vont recevoir et auront 45 jours pour décider, donc voter sur la proposition. Et la façon dont le vote se fait, c'est qu'un créancier, par contre, par exemple, à qui il est dû 10 000 $, ben, il a 10 000 votes.
OK, c'est un vote par dollar.
Exactement, ce qui fait que le poids des créanciers dans le dossier est respecté. Un créancier à qui il est dû 10 000 $ est plus pesant qu'un créancier à qui il est dû 500 $, ce qui est normal en termes de vote.
Ça veut dire que si moi je fais une proposition, elle n'est pas nécessairement acceptée. Je peux me retrouver avec un non.
Vous pourriez vous retrouver avec un non, mais avant d'avoir un non, ou si certains créanciers votent négativement, ils vont faire une contre-offre la plupart du temps. Et à vous de voir si vous acceptez ou non cette contre-offre-là, en sachant que si vous la refusez, bien, la proposition va être rejetée.
Est-ce que les créanciers en général, que ce soit des institutions financières ou n'importe quel autre genre de créanciers, sont généralement ou très généralement en faveur des propositions ou s'ils préfèrent s'en débarrasser puis demander une faillite?
Je vous dirais qu'assez assez généralement, quand la proposition est raisonnable, les créanciers vont l'accepter.
Mais si je comprends bien, là, en faillite, ils n'ont à peu près rien. Ils reçoivent à peu près rien, les créanciers, alors
qu'il y a une... La plupart du temps, dans les cas de faillite de consommateurs, les créanciers reçoivent zéro. Bon. Ou très, 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 très peu, en bas de 1%.
Rapidement, là, mettons que je fais faillite, c'est quoi les conséquences financières pour moi?
Ben, disons qu'au niveau du bureau de crédit, vous savez comment ça fonctionne, le bureau de crédit. Vous avez la cote et vous avez le pourcentage. La cote de crédit qui va de 1 à 9 et le pourcentage qui va jusqu'à 900. La cote, ça indique qu'il s'est passé quelque chose à un certain moment donné dans mon dossier de débiteur et ça va de 1 à 9. Donc, alors, si vous faites une première faillite, vous allez être coté R9 pendant 7 ans. Une deuxième faillite, 14 ans. Une troisième faillite, 21 ans, et ainsi de suite.
Ça m'empêche de faire quoi, ça, si je suis coté à 14 ou 21 ans? Ben, oublions ça. J'en fais une, là. 7 ans. Ça m'empêche de faire quoi?
Bon. En théorie, ça vous empêche d'avoir du crédit pendant 7 ans. En pratique, c'est pas vrai. La plupart des gens qui font une faillite, si leur situation de revenu est stable et si leur revenu est suffisant pour faire face à leurs charges habituelles et avec un certain excédent, en dedans de 2-3 ans, ils vont réussir à réobtenir au moins une carte de crédit ou un petit prêt. Mais dans certains cas, ça les bloque pendant effectivement 7 ans. J'ai eu des débiteurs qui m'ont dit qu'ils avaient eu de la difficulté pendant 7 ans.
Vous êtes non seulement syndic, mais vous êtes comptable aussi. Essayons de reculer, là. On vient de se parler de propositions de consommateurs de faillite. Reculons un petit peu dans le temps. Qu'est-ce que je peux faire, moi, pour essayer d'éviter de me trouver dans des situations extrêmement difficiles comme celle-là?
Mais je pense que la première chose qu'on devrait tous faire, c'est un budget. Budget de dépendance.
Les gens se disent « Ah, c'est trop compliqué, ça. »
Non, c'est pas compliqué de faire un budget. Ce qu'il faut comprendre, la plupart des gens assimile faire un budget à payer ses comptes. Ça n'a rien à voir. Il faut savoir combien ma peau coûte. Combien ma peau coûte pour rester en vie. Donc, mes besoins essentiels, c'est quoi? Au niveau du logement, au niveau de ma propre personne. Puis ajoutons à ça transport, études, mettons, ou dépenses de travail, quelle que soit notre situation personnelle. Si on a des enfants, on va mettre les dépenses d'études là et nos dépenses de transport dans ce poste-là. Au niveau du logement, on va compter tout ce qui sert à nous abriter, loyer, assurance de maison, Internet, téléphone, ce genre de choses. Au niveau de notre personne, bien, c'est notre vêtement, notre nourriture, nos médicaments si on en prend, notre assurance personnelle, si on a de la descendance qui a besoin de protection si on n'est plus là. Et travail, comme je vous disais tantôt, travail-école.
Ça peut prendre quoi? Ça prend-tu une journée complète? Faire combien
non.
de temps ça?
Non, non. Moi, je pense que dans les cas des personnes qui sont les plus au fait de leurs dépenses, là, qui les ont le plus en tête, une trentaine de minutes, 30 à 45 minutes.
Puis d'après vous, en tant que syndic et comptable là, et administrateur, parce que vous êtes ça aussi, là, est-ce que à partir de quel revenu on devrait sérieusement penser à faire un budget?
On devrait toujours faire un budget.
Tout le monde?
Oui, parce que quels que soient les revenus qu'on a, on a toujours des dépenses auxquelles on doit faire face.
En terminant, je voudrais revenir là, à ce qu'on se disait au début, parce qu'au début, on se disait un petit peu, les gens sont maintenus un petit peu sous le respirateur artificiel, j'espère qu'on me passera l'expression, là, par les programmes d'aide, surtout fédéraux. Bon, à la fin de ces programmes-là, parce que là, d'un côté, on a les commerçants, les entreprises, de l'autre, on a nous, les citoyens. D'après vous, qui va avoir le plus de problèmes?
C'est une roue qui tourne. Moi, je pense que les consommateurs vont tomber, ceux qui étaient les plus faibles, et ça va être la même chose pour les entreprises.
En tout cas, on leur souhaite le meilleur, M. Marchand. Merci beaucoup.
Être dépassé par ses dettes, c'est une situation tragique. Il n'y a pas d'autre mot. Ça nous place dans un état de grande vulnérabilité. On veut s'en sortir au plus vite. Et ça, ben, y a des gens qui le savent très bien et qui misent sur cette vulnérabilité pour nous convaincre de faire affaire avec eux. Ces entreprises ne sont pas nécessairement illégales, et même représente parfois la différence entre garder la tête hors de l'eau et se noyer. Mais à quel prix? Avec l'avocate Karine Robillard d'Option Consommateur, on regarde quelles sont ces entreprises et comment nos lois les encadrent.
Bonjour Karine.
Bonjour.
Karine, je viens de parler avec un syndic, puis il me dit, bon, ça paraissait à première vue un petit peu étonnant, il me disait, non, on a beaucoup moins de dossiers, puis en parlant, on s'est dit, oui, les gens sont maintenus un petit peu artificiellement à flot par l'ensemble des programmes, sur des programmes fédéraux que tout le monde connaît maintenant, là. Est-ce que de ton côté, là, du côté d'Options consommateurs, du point de vue des appels à l'aide ou des téléphones que vous recevez, vous constatez la même chose?
Effectivement, on constate la même chose. Dans nos demandes de consultation budgétaire. Là. Puis une des pistes d'explication, effectivement, c'est l'aide, en fait, les programmes d'aide gouvernementale qui ont été mis en place. Les mesures aussi qui ont été mises en place par les institutions financières, comme les reports de paiement sur les hypothèques, Hydro-Québec également. Puis aussi, bien évidemment, la pandémie, hein, le confinement nous oblige tous à diminuer nos dépenses, là, par exemple, tout ce qui a trait à l'essence. Donc, les gens voyagent beaucoup moins, ne se déplacent pas au travail, ne déboursent plus aussi pour le transport en commun, les loisirs, les voyages aussi. Donc, automatiquement, ça nous oblige à diminuer nos dépenses. Donc, ça nous laisse une marge de manœuvre, dans le fond, au niveau budgétaire.
Quand ça va rouvrir, là? Est-ce que, comme on dit en bon français, est-ce qu'il faut se watcher? Est-ce que les gens vont se précipiter parce qu'on se sera tellement retenu? Là? Est-ce que tu crains ça un petit peu?
Oui, c'est une possibilité, hein, parce que lorsqu'on se prive pendant plusieurs mois, même plus d'un an, le réflexe de plusieurs consommateurs sera certainement de se gâter, hein, d'en profiter puis de voyager. D'avoir des dépenses au niveau des loisirs, entre autres.
Il y a des gens qui surveillent ça, hein? des petits fins finaux qui surveillent ça. Tu me disais, quand on s'en parlait, qu'il y a des entreprises de crédit en ligne. Ils n'ont pas attendu la pandémie, je pense bien, mais ces entreprises de crédit en ligne font énormément de pubs et ils savent où la faire, la pub. Hein?
Effectivement, dans le fond, ce sont des prêteurs privés qui ne sont pas ni une banque ni une caisse. Ils vont cibler justement des gens vulnérables qui souvent se sont vus refuser l'accès à du crédit auprès de leur banque, qui peuvent avoir aussi perdu un emploi, donc qui sont à la recherche d'un crédit, là, pour combler en quelque sorte le manque de revenus.
On a laissé faire ces gens-là pendant longtemps, hein? Je pense qu'il y a eu une espèce de mollesse là, des législateurs là-dedans. Il y a eu des changements à la loi. Et j'ai quasiment honte de dire que c'est très récent, les changements à la loi.
Ça a été mis en vigueur, en fait, en août 2019.
Ces changements-là disent quoi? Là? De quelle manière les consommateurs sont-ils un peu mieux protégés avec ces nouvelles dispositions de la loi?
En fait, c'est que ça l'oblige les commerçants qui accordent du crédit, hein, donc les prêteurs privés, par exemple, l'obligation d'évaluer la capacité de remboursement du consommateur. Pour ce faire, ils doivent tenir compte du revenu brut du consommateur. Ils doivent aussi poser des questions au consommateur sur les dépenses mensuelles liées à l'habitation et aussi au paiement des dettes. Donc, en plus, ils doivent aussi procéder à une évaluation du dossier de crédit du consommateur auprès des différents bureaux de crédit, dont Equifax, par exemple.
Est-ce que ça fixe des maximums? Parce qu'on a déjà entendu parler de taux d'intérêt qui allait vraiment très loin, là. Est-ce que ça fixe des maximums? Est-ce qu'il y a des balises chiffrées dans tout ça?
En fait, on ne fixe pas un taux maximum au taux qui peut être exigé de la part du commerçant, mais lorsque le taux d'intérêt exigé dépasse 22 % Celui de la Banque du Canada, qui est maintenant à 0,5 pour maintenant un taux de 22,5 %. Ça oblige à ce moment-là le commerçant à remettre, par exemple, la documentation écrite là, qui témoigne de l'évaluation qu'ils ont faite et aussi l'obligation de calculer le ratio d'endettement du consommateur.
En deux mots, là, le ratio d'endettement, là, comment tu définirais ça?
Le ratio d'endettement, c'est le, En fait, on va tenir compte des dépenses sur les revenus. Donc, on va tenir compte des dépenses d'habitation, des dettes et sur son revenu. Lorsque celui-ci dépasse 45 %, on considère que le consommateur a conclu une obligation excessive et abusée.
Si ça dépasse 45 %, qu'est-ce que ça me donne, moi, comme consommateur? Qu'est-ce que ça me donne en termes de droits comme consommateur?
Ça lui donne un recours, en fait, pour faire annuler son contrat ou réduire ses obligations. Donc, par exemple, le taux d'intérêt qui lui est exigé. Pour ce faire, par contre, le consommateur va devoir poursuivre le commerçant, par exemple, à la division des petites créances, si le prêt est inférieur à 15 000.
Ou aller à la Cour du Québec, si je comprends bien, là, si je te suis bien, si le prêt est plus haut que 15 000. Le problème étant que pour avoir une audition à Cour des petites créances, ça prend au moins 2 ans. Cour du Québec, je ne suis pas au courant des délais, mais ça prend pas 3 jours, ça prend pas 3 mois. Je pense que ça prend des mois. C'est une espèce de mur, finalement, non? Je ne sais pas, là, ça n'a pas grand bon sens, 2 ans ou des mois d'attente, non?
Effectivement, donc vous soulevez des problématiques d'accès à la justice. Hein? Dans le fond, c'est vrai que les délais peuvent dissuader les consommateurs. Puis aussi, tu sais, les gens qui ont fait affaire avec ce type de prêteur-là, qui ont conclu ce type de contrat-là, c'est souvent une des dernières sources de crédit disponibles. Hein? Donc, ils ont souvent cogné à bien d'autres portes avant d'en arriver là. Donc, je serais curieuse de voir combien de consommateurs vont déposer une demande là, devant les tribunaux pour faire réduire son obligation.
Ici, on n'a pas le choix, là, Karine, ça peut arriver, là, on n'a pas le choix. Là, tu disais tantôt qu'une mère de famille t'avait dit « j'ai besoin d'une pinte de lait, je vais chez le prêteur sur garde ». Si je dois aller vers les prêteurs privés, quelle vérification est-ce que je dois faire, moi, comme consommateur?
Bien, première des choses, hein, ces prêteurs-là sont tenus, en fait, ceux qui offrent des prêts d'argent, ils sont obligés d'obtenir un permis de l'Office de la protection du consommateur. Aussi, tous ceux qui offrent du crédit à coût élevé doivent obtenir un permis. Donc, la première des choses à vérifier, c'est est-ce que le prêteur avec qui je veux faire affaire a un numéro de permis? Et on ne se fie pas sur ce qu'on va nous dire comme information. On valide l'information auprès de l'Office de la protection du consommateur. C'est elle qui émet les permis. Donc, c'est facile de vérifier cette information-là. Vous pouvez aller sur le site Internet de l'Office de la protection du consommateur, utiliser l'outil « Se renseigner sur un commerçant ». Et aussi, pour ceux qui n'auraient pas accès à Internet, vous pouvez communiquer avec un agent à l'Office qui va pouvoir, finalement, vous le confirmer ou pas. Donc, ça, c'est la première vérification. Deuxième, d'avoir plus de renseignements sur avec qui je fais affaire, de poser des questions aussi sur le taux d'intérêt, mais aussi sur tous les autres frais que ce type de prêteur-là peuvent ajouter. Hein, on a vu, nous, des frais d'adhésion, des frais de courtage, des frais d'administration. Et ces frais-là, ce sont en réalité des frais de crédit. Donc, ils doivent être aussi ajoutés dans votre taux de crédit. Puis aussi, de poser des questions sur... À la fin de mon emprunt là, avec vous, ça va être quoi mon obligation totale? Ça va être quoi le montant que je vais vous avoir donné? Et c'est là où les gens, vraiment, cette information-là est très pertinente et ça leur permet d'évaluer combien cet emprunt-là va m'avoir coûté en bout de piste. Un exemple, entre autres, un emprunt de 13 000 $ là, auprès d'un prêteur privé, à un taux d'intérêt de 24 % sur 60 mois, donc sur une période de 5 ans. En bout de piste, là, à la fin de la période de 5 ans, de 60 mois, le consommateur va avoir donné 22 880 $ au prêteur. Donc, le capital, c'est 13 000, mais en bout de piste, ça va y en avoir coûté 22 880 $ Donc, c'est énorme. Puis surtout que ces prêteurs-là, dans le fond, ciblent des gens vulnérables, ciblent des ménages qui souvent sont à revenu moyen ou à faible revenu. Le 10 000 $ que ça leur coûte de plus, c'est épouvantable.
Dans ce genre de prêt-là, est-ce que j'ai le droit de rembourser n'importe quoi pour m'en débarrasser au plus sacré?
Effectivement, là, le consommateur peut à tout moment rembourser en tout temps son emprunt sans pénalité.
Il y a d'autres genres d'entreprises. Puis le plus drôle, c'est que je me rappelle très bien que je pense que le dernier sujet que j'ai fait à la facture portait exactement sur ce genre d'entreprise. On appelle ça des entreprises de règlement de dette. Peux-tu, en quelques mots, nous dire ce que c'est? Puis je pense que la loi leur fixe, leur impose aussi certains critères.
Oui. Hein? Donc, les entreprises de règlement de dette, en fond, c'est quoi leur rôle? En fait, leur rôle, c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils font, là? Ils offrent finalement de négocier pour vous vos emprunts, pour que vous ayez par exemple un seul endroit à payer. Ils peuvent aussi vous proposer d'améliorer votre dossier de crédit. Donc aussi, ce type d'entreprise-là n'était pas réglementé avant la modification de la loi en 2017. Elles le sont heureusement maintenant. Donc maintenant, elles sont tenues d'obtenir en premier un permis de l'Office de la protection du consommateur. Elle doit aussi divulguer les honoraires qu'elles vont vous exiger et aussi, elles ne peuvent plus exiger justement le paiement des honoraires avant finalement d'avoir conclu l'entente de paiement avec les créanciers et d'avoir perçu le premier paiement. Là.
Mon souvenir de l'entreprise, en tout cas, que j'avais visé par le reportage, c'était que on exigeait beaucoup d'argent du consommateur, puis que le dossier avançait à peu près pas. Ça coûtait très cher, puis il se passait à peu près rien. Est-ce que je me trompe, là? Est-ce que c'est un exemple à part des autres, ou si c'est l'expérience?
Tu te trompes absolument pas. C'est ce qu'on avait constaté, nous aussi, à l'époque, et les autres associations de consommateurs également. Donc, on promet mer et monde aux consommateurs, puis finalement, ils se rendent compte qu'en plus, qu'ils ont donné de l'argent à ces entreprises-là, mais que le problème n'est pas réglé du tout. Là.
Là, on va parler solution, Karine, parce que on va faire une pub pour Options consommateurs, pour les ASF en général, parce que je ne suis aucunement gêné de dire que vous faites un job extraordinaire. Les gens peuvent vous appeler et recevoir de l'aide. On va en parler un petit peu. C'est une aide gratuite. Mais tu m'as dit, quand on s'en est parlé, des fois, là, malheureusement, quand les gens arrivent, commence à être tard.
Donc, malheureusement, souvent, il est déjà tard. On aimerait bien que les gens nous rencontrent avant, donc en prévention, donc on puisse travailler avec eux sur le budget, justement pour éviter les situations de surendettement. Mais force est de constater que la plupart sont déjà une situation de surendettement assez importante lorsqu'ils nous rencontrent.
Okay. Option consommateur, là, c'est une ASF. ASF, ça veut dire Association coopérative d'économie familiale. Il y en a plusieurs, je présume, à travers le Québec. Pour connaître l'ASF là, à laquelle je peux m'adresser, là, qu'est-ce que je fais?
Ben, en fait, il y a un portail qui existe sur Internet qui s'appelle Tout bien calculé. Donc, si vous inscrivez toutbiencalculé.ca, vous allez pouvoir trouver l'association de consommateurs la plus près de chez vous. Okay. Et donc, pouvoir les appeler pour obtenir un rendez-vous en consultation budgétaire. Il ne faut pas oublier, justement, nos services donc, sont gratuits et c'est confidentiel. Donc, les gens peuvent venir nous rencontrer. Là.
Si on se résume, là, avant de se tourner vers un prêteur privé sur le net ou avant de se tourner vers une entreprise de règlement de dette, ben d'abord, je pense que la première affaire à faire, c'est peut-être éviter d'une part de d'agir dans l'urgence, peut-être s'essayer soi-même. Je pense qu'on est capable d'essayer de négocier. Si on n'est pas capable, c'est vous appeler. Mm-hmm. Puis on parlait avec Bruno Marchand précédemment, c'est de se tourner vers son syndic de faillite, mais faire quelque chose parce que je pense que l'une des pires choses à vivre dans sa vie, du point de vue de notre santé, là, qu'elle soit mentale ou même physique, c'est de vivre des problèmes d'argent. Je pense que c'est l'horreur totale. Tu as vu ça, hein, ce stress, cette anxiété des gens. Il ne faut pas rester pogné avec ça. Il ne faut pas se laisser faire ça, je présume.
Non, parce qu'évidemment, là, c'est sûr que lorsqu'on vit des difficultés financières, comme que tu viens de le mentionner, ça génère un stress épouvantable là, chez les consommateurs. Donc, les gens sont stressés quand ils nous appellent, on le sent au téléphone, lorsqu'on les rencontre, la même chose. Puis, ce qu'on constate, c'est qu'une fois qu'ils en ont parlé, qu'ils nous ont rencontrés, c'est à quel point, bien, finalement, la rencontre les a soulagés. Puis ça, il y en a beaucoup beaucoup de consommateurs qui nous le mentionnent, qu'ils ont apprécié le service là, qu'ils ont obtenu. Là.
Merci beaucoup, Karine.
Bien, merci, ça m'a fait plaisir.
Il n'y a aucune raison pour que vous laissiez les dettes et tout le stress qui va avec littéralement pourrir vos vies. Karine Robillard vient de nous le dire. Option consommateur, les autres ASEF, les associations coopératives d'économie familiale, et puis aussi tous les organismes qui viennent en aide à ceux qui ont des ennuis d'argent ou qui veulent mieux gérer, peuvent vous fournir une aide rapide, personnalisée et confidentielle. Alors, faut pas hésiter. Allez les voir. Vous avez d'autres questions? Vous vivez d'autres genres de situations? Suivez Options consommateurs sur Facebook ou Twitter. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre balado. Allez, on se retrouve le 28 janvier.